Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce soir sur France 3 à 20h45, Franck Ferrand nous emmène à Florence. Bonjour Franck.
Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. C'est tellement beau Florence, vous savez, pour les amateurs d'art, c'est peut-être la plus belle ville du monde. Alors nous vous avons préparé un très beau numéro de L'ombre d'un doute, où il va être question des Médicis et de leur splendeur évidemment, mais aussi de Michel-Ange, de Machiavel, avec toujours le souci, c'est notre marque de fabrique en quelque sorte, d'explorer les zones d'ombre de l'histoire. Rendez-vous donc sur les rives de l'Arno, devant le Palazzo Vecchio, place de la Seigneurie, à 20h45 sur France 3.
Et hier soir, vous êtes allé au cinéma.
Et oui, j'ai eu la chance d'assister à la projection qui était organisée par Ciné France et Neuflis, vous savez, les personnes qui ont financé le film du biopic de Jalil Lesper sur Yves Saint-Laurent. Et je vous avoue que j'ai passé un bon moment. En compagnie de Yann Kerlot, qui a travaillé pour la Maison Saint-Laurent, et de notre monsieur cinéma, Bruno Crass, je vous propose aujourd'hui de revenir sur le génie singulier du grand couturier.
Et puis à la fin de mission, vous répondrez à la question de Stéphane sur l'origine de l'expression « autant pour moi ».
Alors là, vous allez voir que la réponse n'est peut-être pas celle que vous attendez, parce qu'on raconte beaucoup de choses sur cette expression depuis des années. Pour le moment, nous repartons un demi-siècle en arrière, dans le Paris élégant, créatif et parfois trouble des années 60.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Tout a l'essence, tout a l'incandescence. Certaines œuvres ne visent pas à la demi-teinte, à l'accord hésitant. Elles veulent des notions franches, notes pleines et couleurs primaires. Le pur talent, le pur amour, le pur danger et le génie à l'état pur. Voilà ce que donne à voir le film de Jalil Lesper porté par Guillaume Gallienne en retenue et aussi racé, aussi subtil et fragile que son modèle, un Pierre Ninet digne des Oscars. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. On y rencontre Yves Saint-Laurent en 1957, juste avant la mort du géant de la mode, Christian Dior, et d'emblée, le créateur aux lunettes d'écaille s'impose et rayonne par un mélange d'extrême timidité et d'extrême assurance. Je n'ai pu m'empêcher, en voyant ça, de songer, vous savez, au sublime Albatros de Baudelaire. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Isolé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Saint-Laurent fut un poète au sens propre de, vous savez, poiein, hein, en grec, c'est le créateur, le faiseur de style, surdoué et dès lors parfaitement inadapté. Ce jeune homme trop mince, trop gracile, faussement gauche et réellement précieux, se mue en titan dès qu'il a sous la main des crayons, des couleurs, une paire de ciseaux. Quelle inspiration! On est là près de quelque chose d'absolu, hein, si loin de nos relativités actuelles. À propos du talent d'Yves Saint-Laurent, pour l'état civil Yves Mathieu Saint-Laurent, il descendait de Mathieu, hein, le personnage de l'Empire. Enfin bon, on va pas faire d'histoire impériale aujourd'hui. À propos de Saint-Laurent, il est permis de parler de précocité, voire de prédétermination. Il est vrai que les circonstances ont joué dans ce sens, puisqu'elles ont catapulté un tout jeune homme de 21 ans à la direction artistique de la légendaire Maison Dior. C'est d'ailleurs le début du film, c'est aussi le début de notre récit. Alors il faut se remettre évidemment dans l'ambiance de ce que pouvait être ce Paris de la fin des années 50, tiraillé entre Madeleine et Saint-Germain-des-Prés, entre Camus qui vient de recevoir le Nobel et le triomphe d'Édith Piaf. On est dans ces années 50 si bien dépeintes dans les mythologies de Roland Barthes, vous savez, marquées par la déesse Citroën, le catch, les feuilletons radiophoniques, Minou Drouet et les folies d'Onassis. La télévision est en train d'entrer dans les foyers, le président Coty reçoit la jeune reine Elisabeth II, l'Europe communautaire est en train de naître, mais, et c'est ce qui va marquer surtout l'époque, on est en pleine guerre d'Algérie. Or, cette guerre d'Algérie, elle est particulièrement mal vécue par un tout jeune Français Laurent, installé à Paris où depuis la fin de 54, après un court passage par l'école du syndicat national de la couture, il est devenu si jeune l'assistant personnel du gourou mondial de la mode, Christian Dior, en personne. le 24 octobre 1957. Christian Dior, nous l'avions raconté à ce micro, est victime d'une crise cardiaque dans une station thermale. On est à Montecatini, en Italie. Il ne va pas s'en relever. On peut dire que pour la haute couture, c'est un coup terrible. Or, quelques jours auparavant, Dior avait dit à la mère d'Yves Saint-Laurent, « Yves sera mon successeur ». Il est vrai que le jeune homme contribuait de plus en plus aux collections et pour la collection automne-hiver 57, il avait déjà fait 35 modèles. Le 15 novembre 1957, le directeur de la maison, Jacques Rouette, annonce lors d'une conférence de presse, on est tout près d'ici, hein, la maison Dior elle est à quelques mètres des studios d'Europe 1, le patron annonce que c'est Yves Mathieu Saint-Laurent qui devient responsable de tous les modèles de la maison Dior. Marcel Boussac, le propriétaire, hein, avait un temps envisagé de fermer la maison, mais on avait réussi à le convaincre de changer d'avis. Voilà ce qu'Yves Saint-Laurent lui-même dira à propos de cette succession. Il en parlera en 1983, je le cite. À la mort de Christian Dior, l'occasion se présenta de créer mes propres collections, qui se présenta de créer mes propres collections, me fit abandonner le projet de travailler pour la scène. Et on en parlera tout à l'heure. La vraie, la grande passion d'Yves Saint-Laurent, c'est le théâtre. À 21 ans, écrira-t-il, je pénétrais dans une sorte de forteresse de célébrité qui devint le piège de ma vie. On est au cœur du sujet. L'amour du théâtre ne m'abandonnerait jamais, mais entre-temps, Dior m'avait appris à aimer quelque chose d'autre que la mode et le stylisme, la noblesse fondamentale du métier de couturier. Je crois qu'un créateur qui n'est pas aussi un couturier, qui n'a pas appris les secrets les plus subtils de la création réelle de ses modèles, est comme un sculpteur qui donne ses dessins à un autre ou un artisan qui les réalise. Pour lui, le processus tronqué de la création s'apparentera toujours à un acte d'amour interrompu et son style en portera la flétrissure, l'appauvrissement. Inutile de vous dire que la première collection Dior signée Yves Saint-Laurent est très très attendue. Le défilé a lieu 2 mois et demi après la reprise, hein, le 30 janvier 1958. On est à mi-chemin encore du design Dior et de modèles plus confortables. La collection s'appelle Trapèze. Elle a un succès phénoménal. Et voilà ce que disait le jeune Yves Saint-Laurent lui-même au micro de Julien Besançon. À l'époque, c'était pour Europe numéro 1.
Une ligne qui est basée sur la construction de la ligne, de la pureté, l'équilibre de la robe surtout.
Oui, je comprends, ce sont des mots que vous avez répétés 100 fois depuis ce matin, mais est-ce que c'est une collection pour vous du souvenir de Christian Dior, ou est-ce que c'est une collection que vous avez voulu absolument affranchie de tout ce que vous aviez appris avec Christian Dior?
Ça a été fait dans le même esprit, dans le même style, dans la même technique.
Vous vous en trouvez satisfait après cette première présentation?
Je n'ai pas à me plaindre.
Je n'ai pas à me plaindre avec cette petite voix assez extraordinaire que va reprendre Pierre Ninet d'une façon absolument stupéfiante, puisque je vous promets qu'il n'y a pas de distance entre l'arbre et l'écorce et que l'interprétation que donne Ninet du jeune Christian Dior est tout simplement hallucinante. Alors, les journalistes à l'époque, en 1958, ont été dithyrambiques pour cette première collection Dior. Voici ce que Marie-Josée Le Picard écrivait dans le Jardin des Modes. Une rédactrice en chef d'un magazine de mode américain qui était devant moi s'est levé en larmes. À côté de moi, il y avait également 2 Françaises en train de pleurer. L'une s'est tournée vers l'autre et a dit « Ma chère, la France est sauvée, c'est Jeanne d'Arc ».
Thank you.
La Wally, opéra d'Alfredo Catalini, interprété par Maria Callas, extrait de la bande originale du film Yves Saint-Laurent, dont vous nous contez la vie cet après-midi, Franck Ferrand.
Alors, cette Callas nous emporte à la fin du film. Moi, je reviens vers le début, si vous voulez, vers ces débuts d'Yves Saint-Laurent à la tête artistique, en tout cas de la Maison Dior. Les témoignages n'ont pas seulement enflammé la presse française. Hein. Voilà ce qu'on trouvait dans The New York Times, donc en janvier 1958. De la collection d'aujourd'hui ressort un héros français, écrivaient les Américains, le successeur de Dior, Yves Saint-Laurent, qui assure un soutien confortable à la maison de couture. Et The Herald Tribune écrivait « Il semblait impossible que Dior lui-même ne soit pas apparu sur la scène à la fin, tout le monde pleurait. C'était un des plus grands moments d'émotion de la mode de tous les temps. » Non, je t'ai plus. Quand vous avez 21 ans, que vous vous retrouvez à la tête d'une maison comme ça et que la planète entière crie au triomphe, c'est quand même assez inouï. Vous savez, Yves Saint-Laurent dira plus tard, toujours en 83, dans ce livre de souvenirs passionnant, il dit « Je savais, j'ai toujours su que j'allais devenir célèbre. » Mais c'est une chose de devenir célèbre, c'en est une autre de devenir très jeune, si jeune, un mythe, avec tous les dangers que ça présente, bien entendu. La grande rencontre, évidemment, et on l'attend, et c'est le cœur du film, c'est la rencontre avec Pierre Berger, qui justement a lieu cette année-là, en 1958, le 3 février, donc très très peu de temps après le fameux défilé, hein, après la fameuse présentation de la collection Dior. Le 3 février, donc un dîner organisé par Marie-Louise Bousquet, qui est la représentante en France, très crainte et très admirée de Harper's Bazaar à l'époque. Pierre Berger est déjà très lancé, et c'est lui qui soutient à l'époque et qui a, on peut dire, quasiment fait la carrière de Bernard Buffet. Yves Saint-Laurent a 22 ans, il est encore très malléable et il va devenir la création en quelque sorte de ce Pierre Berger qui est son Pygmalion mondain, son Pygmalion industriel, son Pygmalion dans les affaires. C'est fondamental, c'est là que tout change. Laurence Benaïm dans sa biographie dit Yves va devenir monsieur, une époque commence. Et oui, c'est un changement. Alors le grand changement, il va avoir lieu assez peu de temps après, lorsque Yves Saint-Laurent prendra la tête de sa propre maison dans des circonstances extrêmement douloureuses et qui sont directement liées à la guerre d'Algérie. Mais justement, pour mieux comprendre ça, il faut revenir sur les origines d'Yves Saint-Laurent, sur ses origines pieds noirs, même s'il détestait ce mot. Hein. Il disait « je ne suis pas pied noir, je suis un Français d'Algérie ». Il était très, très pointilleux sur le sujet, évidemment. Il était né donc à Oran en août 1936. Il a connu évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il aura connu pendant sa jeunesse et son adolescence une Algérie qui n'était pas encore la proie de la guerre. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Son père, Charles Mathieu Saint-Laurent, était président d'une compagnie d'assurance, propriétaire d'une chaîne de salles de cinéma, et donc il descendait, hein, je vous disais, du fameux Mathieu, le baron de Mauvière, qui avait officié au mariage de Napoléon et de Joséphine, enfin de Bonaparte et de Joséphine. Quant à sa mère, Lucienne Vilbeau, personnage très important, elle était la fille de l'ingénieur Edmond Vilbeau. C'était une femme très belle, très élégante, qui a complètement marqué à vie son fils, bien entendu, et qui peut-être lui a donné d'emblée, lui a transmis ce sens quasi inné de ce qui est élégant et de ce qui ne l'est pas. Vous savez, on a beaucoup raconté ça, et nous allons le voir avec Yann Kerlo dans un instant, à quel point Yves Saint-Laurent est allé loin dans les alliances de couleurs, de matières, dans la révolution des formes, etc. Parfois, il est allé aux extrêmes limites du mauvais goût, mais toujours dans la totale élégance. Ça vient peut-être de là. Donc, on est dans une famille aisée, d'Algérie. Laurence Benaïm nous dit « Yves grandit au milieu des rires, du soleil et des secrets qui brillent dangereusement dans le regard d'une mère cachotière, comme c'est bien dit. C'est l'enfant roi. Il aura tout, les peluches, les autos, les tricycles, le théâtre, avec Blanche-Neige et les sept nains. On l'habille comme un moussaillon de gala avec des pantalons blancs et des sandalettes. Très vite, il comprend ce qu'on attend de lui. Il joue son rôle d'enfant avec un admirable sens du caprice. Non, je ne t'aime pas comme ça, dit-il à sa tante Renée. Et on dit qu'elle se changera, le jour où il lui dit ça, elle se change trois fois de suite jusqu'à ce qu'il dise oui, comme ça, tu es bien. Vous voyez, ça fait partie de ces enfants tyranniques dont le talent si précoce finit par modifier la vie même de certaines familles. Alors, il est à l'école religieuse jusqu'à 8 ans avant d'entrer au collège du Sacré-Cœur où il va rester jusqu'à ses 16 ans. Et le jeudi après-midi, parce qu'à l'époque c'est le jeudi qu'on n'a pas école, le jeudi après-midi, il fréquente l'école des Beaux-Arts d'Oran, où son professeur témoigne, il dit, il avait mis de la poudre d'argent dans la gouache, ce qui dénotait une finesse, une recherche, une élégance comme je n'en avais jamais vu. Et oui, ce tout jeune homme qui va modifier même les pigments avec lesquels il peint, vous voyez, il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant. En 52, il entre au lycée public La Mauricière pour passer un bac de philo. Il a toujours beaucoup aimé la philo, la littérature. Vous savez que Yves Saint-Laurent était un grand lecteur de Proust, notamment. Il disait, et je trouve ça assez intéressant, qu'il relisait en boucle La Recherche du Temps Perdu sans jamais aller au dernier tome qui s'appelle Le Temps Retrouvé pour ne pas finir ce qui devait être un flot ininterrompu, en quelque sorte. Yves Saint-Laurent dira lui-même « À partir de mes études secondaires, j'ai dû mener une double vie. D'un côté, la gaieté de la vie familiale, le monde que je m'étais créé, avec mes propres dessins, mes costumes, mon théâtre, et de l'autre, le calvaire de l'école catholique où j'étais un exclu. » Et il va être, on va dire, persécuté par ses camarades du fait de cet extrême, ce caractère très gracile et même, disons-le, très efféminé qui est le sien et qui passe pas du tout, inutile de vous dire. Et il en souffrira tellement qu'il restera enfermé, comme recroquevillé sur lui-même, à jamais. Il peint les portraits des amis de sa mère. Toutes veulent avoir leur portrait à la manière de Domergue. Il peindra des dizaines de têtes de femmes. Elles les accrocheront dans leur salon. On a été un peu exclus à ce moment-là, se souvient Michel. On dirait que les amis de son enfance sont toutes amoureuses de lui. C'est pire que ça. Il fait partie de ces personnages qui ont un tel rayonnement que lorsqu'il passe quelque part, tout le monde se sent d'une manière ou d'une autre marqué. Alors il y a le petit nombre de ceux qui détestent et l'immensité de ceux qui adorent.
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, sur Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH, ainsi que sur notre page Facebook. Dans un instant, nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la vie d'Yves Saint-Laurent.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour découvrir, grâce à vous, la vie de ce couturier Yves Saint-Laurent.
J'ai parlé tout à l'heure de prédétermination. Vous savez, il y a quelque chose d'étonnant. Hein. C'est le jour de son 9e anniversaire. Il est quand même, c'est encore un petit garçon. Yves avait assuré à ses parents qu'un jour son nom serait écrit en lettres de feu sur les Champs-Élysées. Vous voyez, comme, il y avait cette conscience d'être séparé, comme aurait dit André Malraux. Il a aussi, et ça peut-être qu'on ne l'a pas toujours assez souligné, une très grande passion pour le théâtre qui est née à l'occasion d'une représentation de l'École des Femmes mise en scène par Louis Jouvet avec, vous savez, les fameux décors et costumes de Christian Bérard. C'était une espèce de il y avait là quelque chose de magique en fait. Hein. C'était une fantasmagorie. Ça a profondément marqué Yves Saint-Laurent qui dira plus tard « J'ai compris instantanément que j'avais assisté à une œuvre de génie, à quoi que j'ai pu et quoi que j'ai pu voir depuis, jamais rien n'a égalé cela. » C'est le fameux petit moment déclencheur qu'on trouve dans la vie de tous les génies et qui va faire qu'à partir de ce moment-là, mais il n'a plus qu'une idée, c'est de se remettre dans l'état d'esprit qui était le sien à ce moment-là. Et alors, il va fabriquer un théâtre miniature. Hein. Laurence Bennahim nous dit, il apprend des scènes entières de la pièce, donc de cette école des femmes. Il a découvert les sortilèges de l'illusion. Bientôt, il découpe ses silhouettes dans du carton pour les habiller dans de vieux draps que lui a donné la lingère. Ses personnages se déplacent au-dessus d'une caisse en bois, rehaussée d'un fronton en arabesque sur lequel on lit l'illustre théâtre. C'était le nom, vous savez, du théâtre de Madeleine Béjart, qui a été ensuite plus ou moins celui de Molière. C'est une boîte magique. La scène est un décor peint avec des candélabres et un rideau en trompe-l'œil. J'avais créé, dit-il, toute une machinerie pour placer les décors et les éclairages. Cette passion du théâtre, elle le poursuivra toujours. C'est fondamental. Donc, passion du théâtre et puis en même temps ce goût de cette Afrique du Nord, bien entendu. Notre monde à l'époque était Oran et non Paris, dit-il. Ni Alger, la ville métaphysique de Camus aux blanches vérités, ni encore Marrakech et sa bienfaisante magie rose. Oran, une cosmopole de commerçants venus de partout et surtout d'ailleurs, une ville étincelant dans un patchwork de mille couleurs sous le calme soleil d'Afrique du Nord. Alors, Il va d'abord s'inscrire à un concours, le concours annuel du secrétariat de la laine en 52, ça s'invente pas. Mais il y a quand même des jurés très importants à ce concours, puisque vous trouvez Monsieur Balmain dans les jurés et un certain Monsieur Dior. Il a 17 ans à ce moment-là, il obtient le troisième prix dans la catégorie robe. Le voilà parti à Paris pour récupérer son prix, et sa mère va demander à un ami de la famille d'organiser une rencontre avec le directeur de Vogue, très important, Michel de Brunhoff, qui va jouer un rôle absolument essentiel dans toute cette vie, dans cette carrière. Et en 54, lorsque Christian Dior passe son premier concours professionnel, donc celui de la chambre syndicale, il envoie cette lettre à Brunhoff. Cher monsieur, je m'excuse de ne pas vous avoir répondu plus tôt, mais j'ai préféré attendre les résultats de mon examen pour le faire. Comme je l'espérais, ils ont été pleinement satisfaisants et je dois m'installer à Paris au début de l'automne. Mes projets sont peut-être trop vastes, ainsi que Bérard. Vous voyez que ça le quitte pas. Je voudrais m'intéresser à plusieurs choses qui en réalité n'en font qu'une, décors et costumes de théâtre, décoration, illustration. D'autre part, je me sens extrêmement attiré par la mode. Le choix de ma carrière naîtra certainement d'une occasion dans l'une ou l'autre de mes possibilités. Quoi, vous imaginez, faut quand même avoir une claire conscience de ce qu'on veut devenir à 20 ans, Même pas à 19. Quoi qu'il en soit, pensez-vous toujours que je doive commencer par la chambre syndicale de la couture? Si vous pensiez autrement, je serais heureux que vous me le disiez, etc. Il va s'installer à Paris en 54. Il suit bien sur les conseils de Brunhoff les cours de la chambre syndicale. Il est lauréat, je vous l'ai dit, de ce prix du secrétariat. Dior le reçoit en décembre 54 à la demande de Michel de Brunhoff, qui donc a joué les entremetteurs. Et voilà ce que dira Yves Saint-Laurent. Dior accepta de me recevoir. Il regarda mes dessins et me proposa un travail. C'est pas d'une modestie folle comme résumé, ça fait beaucoup penser à la phrase de Jules César, Veni, Vidi, Vici, mais enfin c'est un peu ça quand même. La presse va le surnommer le Petit Prince, et donc la suite, j'ai envie de dire, vous la connaissez. Ses débuts chez Dior en 55, où il travaille comme styliste, il est l'assistant, il devient très vite l'assistant personnel de Monsieur Dior. Voilà ce qu'il dit des débuts de sa carrière. Nous rions tout le temps. Notre studio était juste au-dessus du bureau de Monsieur Dior. Il nous entendait et disait « Mais que faites-vous encore ? Ah, j'aimerais vous rejoindre. » Sauf que lui, il était pris par les affaires. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui va peut-être d'une certaine façon rabrunir la fin de la carrière de Christian Dior, que d'être trop occupé par sa propre gloire, en quelque sorte. En 1956, Yves Saint-Laurent dessine les accessoires pour les licences Dior avant de créer des modèles pour les collections couture. Et l'un des premiers modèles est photographié par Richard Avedon. Figurez-vous, c'est quand même incroyable. C'est à l'occasion de la séance Dovima with Elephants, Dovima et les éléphants au cirque Medrano. Et ça va faire très vite connaître le petit prince de la mode. Yves Saint-Laurent admire évidemment Christian Dior. En surface, Monsieur Dior paraissait gentil et légèrement fragile, mais en fait, il avait une force incroyable, dira Anne-Marie Munoz à l'époque. Est-ce que l'admiration est réciproque? Oh oui, certainement. Je vous ai dit tout à l'heure que Christian Dior avait littéralement désigné Yves Saint-Laurent comme son dauphin. Très vite, je ne dirais pas que l'élève a dépassé le maître, ça non, sûrement pas, mais en tout cas, il est allé ailleurs, sur d'autres chemins qui le conduiront, eux, beaucoup plus loin. Bonjour messieurs, bonjour Yann Kerlo, merci d'être avec nous. Alors nous allons voir justement quels sont ces chemins qu'a exploré Yves Saint-Laurent à partir du moment où il est devenu le maître de sa propre griffe. Et puis, dans un instant, avec Bruno Kras, nous dirons un mot de ce film qui sort aujourd'hui dans toutes les salles et qui est une véritable révélation.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez du célèbre couturier Yves Saint-Laurent avec vos invités. Yann Kerlo, qui a travaillé plus de 15 ans dans le domaine du luxe et de la mode, notamment pour les groupes Yves Saint-Laurent et Gucci, auteur des secrets de la mode aux éditions Perrin. Et puis Bruno Kras, notre critique cinéma d'Europe 1.
Bruno Kras, qui a été le premier à inviter Pierre Ninet sur une grande antenne nationale, n'est-ce pas Bruno? Il faut rendre à César.
Oui absolument, c'était à Cabourg en juin il y a 2 ans. J'ai rencontré ce jeune homme qui était dans un petit film, J'aime regarder les filles. Il m'a déjà fasciné. Et il me racontait qu'il était à la Comédie Française. J'ai dit, mais tu as quel âge? Il avait 22 ans à l'époque. Et il m'a dit, bah, viens me voir, je joue dans un Brecht, et puis on prendra un café après. Donc j'y suis allé avec mon épouse, on a pris un café après, on a discuté, je me suis dit, mais il est incroyable. Et donc, quand j'ai vu Emmanuel Maubert qui cherchait des stars, je lui ai dit, écoute, j'ai quelqu'un à te proposer pour cet été, tu peux le prendre sur 3 quarts d'heure, c'est pas du tout une star, mais il va le devenir, et puis il aura plein de choses à te raconter. Donc Emmanuel Maubert a pris comme invité Pierre Ninet. En septembre, quand je suis revenu, je lui ai dit alors, il m'a dit, mais il est génial ce type. Là, j'ai revu récemment Emmanuel qui m'a dit, ouais, t'avais raison.
Mais moi, je me demandais même, en voyant le film hier soir, s'il n'avait pas une chance pour les Oscars, non?
Au moins pour les Césars.
Les Césars, ça c'est une certitude.
Oui, pourquoi pas. Les Oscars, en effet, ils peuvent très bien, s'ils voient le film, si ces vieux messieurs des Oscars voient le film, pourquoi pas, parce qu'il est très très bon. Oui.
Alors je pense que la critique est absolument unanime sur la prestation de Ninet, qui est donc tout simplement dessillante, mais... Que pensez-vous du reste du film, Bruno Crass?
Alors, moi, j'étais un peu réticent, je suis très honnête, en plus, c'est un film dont on est partenaire, mais je me disais, mais moi, Yves Saint-Laurent, c'est pas ma tasse de thé, la haute couture, j'y connais rien, et c'est un peu restreint d'aller voir un film qui parle comme ça d'un personnage, et de ses robes, et de ses créations. Et puis, d'autant plus qu'au cinéma, il faut toujours avoir un point de vue. Il faut raconter une histoire et que cette histoire, dans les mains du metteur en scène, devienne universelle. Et j'ai trouvé, pour revenir à Pierre Ninet, que c'est lui, Pierre Ninet, qui donne le point de vue. Parce que, en quelques minutes, il donne le point de vue du film, l'histoire d'un être écorché vif qui va finir par se brûler les ailes. Voilà le point de vue du film. Et du coup, le film devient universel. Que ce soit Yves Saint-Laurent ou pas, grâce à l'incarnation de Ninet, le film devient universel. Et j'ai une anecdote, c'est que, vous avez vu le film, il y a la voix, on vient d'entendre la voix, j'avais jamais entendu la voix d'Yves Saint-Laurent là récemment, on vient d'entendre la voix d'Yves Saint-Laurent dans l'émission, c'est incroyable. Mais le défaut que peut avoir un acteur, c'est de composer, de se mettre des lunettes,
de faire de l'imitation,
de la pure composition. Mais il compose, mais une fois qu'il a composé, parce qu'il a écouté pendant des mois et des mois la voix d'Yves Saint-Laurent, il s'est baigné dans ce milieu-là, il a incarné et il a trouvé, en grand acteur qu'il est déjà, l'essence du personnage, en tout cas l'essence d'un personnage. Et quand par exemple il rencontre, j'ai raconté l'anecdote déjà sur cette antenne, mais quand il rencontre pour la première fois Pierre Berger, il parle de l'Algérie, justement. Mmh. Il est très sensible, comme vous l'avez dit, Franck, sur l'Algérie, Yves Saint-Laurent. Et Pierre Berger dit une phrase maladroite sur l'Algérie.
Il dit, oui, l'Algérie est la chemise sale de la France.
Voilà, merci, parce que je ne sais pas. Et là, on a notre Ninet, Yves Saint-Laurent, qui dit simplement cette phrase, « Vous me faites beaucoup de peine. » La façon dont il l'a dit, c'est tellement l'être blessé qu'on a les larmes aux yeux, on dit mais il faut pas lui faire du mal à ce type-là. Voilà. Ouais, il faut vrai, pas lui faire du mal. Donc, je trouve, pour répondre à votre question, Franck, après quelques détours, que le film est porté par Pierre Ninet. Après, c'est un joli film. Il y a des collections, moi qui ne connais pas, j'étais quand même...
Sublime, ce sont les vraies collections, hein,
collections
de la Fondation.
Et c'est une belle histoire, l'histoire d'un homme extra, hyper sensible, qui va être rattrapé par ses démons, et ça le film n'éduclore pas la vie d'Yves Saint-Laurent, on verra le prochain.
Oui, on va parler de la drogue, de l'homosexualité,
voilà,
tout ça, mais ça n'est pas le centre pour
non,
autant
c'est
du
pas
film.
Le centre du film, mais on voit un être qui dit lui-même, je suis un infirme du quotidien, qui est porté par Pierre Berger, heureusement que Pierre Berger était là, hein, parce que je sais pas s'il aurait
en tout
eu
cas,
la force.
C'est la morale du film.
C'était
oui,
un maniaco-dépressif, il aurait peut-être pas eu la force de
Pierre Berger,
de, voilà,
interprété par Guillaume Gallienne. Ouais.
Et alors, on le voit, on voit en même temps ce mélange de sûreté, vous l'avez dit, il fait un dessin, on sait qu'il est sûr de son talent et même de son génie, parce que je trouve qu'à ce niveau-là, c'est du génie, et le film le raconte très bien.
Alors, il y a un deuxième film qui va sortir sur le sujet dans pas très longtemps, décidément.
Alors, c'est
toujours
c'est...
difficile de passer en second. Je me souviens Valmont qui était passé après Les Liaisons
ouais,
Dangereuses.
Et puis on a eu d'autres exemples du cinéma français comme ça, qui ont, c'est pas très bien de le faire, je sais pas pourquoi ça arrive, cette manie de faire deux films sur le même sujet. Alors, le metteur en scène est un très bon metteur en scène, il s'appelle Bertrand Bonello. Je viens d'apprendre à l'instant que le film va sortir le 1er octobre seulement 2014. C'est un autre scénario. On m'a dit à l'oreille que c'était un scénario plus âpre, plus hard. La différence entre les deux films, c'est que le premier est autorisé par Pierre Berger, qui a été là tout le temps, et le second, non. Donc, on va voir. On va voir ce que ça vaut. Mais évidemment, le défaut, c'est que quand on aura vu déjà un film sur Yves Saint Laurent, est-ce qu'on a envie d'en voir un deuxième?
Et ce qui est stupéfiant, c'est de voir l'importance qu'a acquis Saint Laurent. Hein, son souvenir est très présent dans les films. Il y a eu cette vente d'objets d'art incroyable. Il y a les expositions, les rétrospectives en permanence. C'est devenu, on peut dire, et les rétrospectives sont à l'échelle planétaire maintenant, Yann Kerlo. Yves Saint Laurent est devenu une sorte de totem de la mode mondiale.
Alors, il est devenu un totem de la mode mondiale, vous avez tout à fait raison. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça a été instrumentalisé d'une manière extrêmement intelligente. Après deux décennies éblouissantes, qui sont la décennie de 1960 et la décennie de 70, où il va y avoir toutes les grandes collections dont on reparlera, et à partir de 1983, très exactement, il y a un événement qui va stupéfier le monde entier, qui est la rétrospective Yves Saint Laurent au Metropolitan Museum de New York. Alors, j'étais à New York à cette époque-là, et j'avais été tout à fait médusé de voir d'immenses banderoles le long des façades du Met, qui d'habitude, si vous voulez, célébraient plutôt lors des sites, ou Rembrandt, ou Van Dyck, et tout d'un coup, un couturier, pour la première fois, ça n'était jamais arrivé, et on imagine le travail de lobbying qu'il y a dû y avoir, qui était bien sûr instrumentalisé par Pierre Berger aussi, et par un certain nombre de gens, et en particulier des administrateurs du Met, et tout d'un coup, on a sacralisé la couture, ce qui ne s'était jamais fait auparavant. Et on a fait d'Yves Saint Laurent une icône vivante pour ses 21 ans ou 22 ans de création. Alors ça, c'était quelque chose de formidable. Et on a ensuite dupliqué cet événement, puisque cette rétrospective qui avait eu lieu a été ensuite emmenée jusqu'à Pékin, ensuite à Sydney, ensuite dans le monde entier. Donc une orchestration tout à fait magique de son succès.
Finalement, on peut dire que Yves Saint Laurent avait le génie incontestablement, mais cette griffe YSL, elle est le mélange du génie d'Yves Saint Laurent et de l'autre génie, celui des affaires de Pierre Berger et des réseaux. Il est derrière et il l'a porté constamment. Hein.
Alors, ils ont quand même, il faut dire une chose, qu'ils ont eu beaucoup de chance l'un et l'autre à un moment donné, c'est qu'au moment de la création de la maison de couture dont vous avez parlé, en 1962, il y a un homme miraculeux qui se tient dans la coulisse, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui est Monsieur Robinson,
et oui,
qui est le prototype du self-made man aux États-Unis, un garçon qui a commencé avec zéro situation et qui tout d'un coup, à 35 ans, est propriétaire de 22 banques. Et comme il ne sait pas quoi faire de son argent, à un moment donné, Pierre Berger va le voir et lui explique que la maison Saint-Laurent est une maison qui va avoir un très grand succès, qu'il faut financer
toute nouvelle maison,
qu'il faut les aider et financer ce développement. Et Robinson va mettre beaucoup d'argent dans cette maison et permettre l'ouverture de la maison de couture Yves Saint-Laurent. Donc ça, c'est un petit coup de chapeau à donner parce que, bien entendu, Pierre Berger avait un immense talent, mais il lui manquait le nerf de la guerre à ce moment-là.
Et puis, comme toujours, ces grandes réussites sont semées d'embûches et de ravins. Et là, en l'occurrence, on peut dire que Yves Saint Laurent était passé tout près, parce que le petit prince adulé, directeur artistique de la maison Dior, était tombé quand même très bas à cause de la guerre d'Algérie et de ses propres difficultés. Il n'acceptait pas le service militaire, disons les choses comme elles sont.
Alors, il n'acceptait pas le service militaire, c'était un très gros choc pour lui de devoir être
engagé. On peut l'imaginer quand on voit.
Et ensuite, il va avoir beaucoup de difficultés. Ça va être véritablement son entrée dans une liaison dangereuse avec le monde de la dépression nerveuse qui va le suivre toute sa vie, puisqu'il dira toute sa vie qu'il a été dépressif.
Parce qu'en fait, bon, on peut imaginer que ce garçon extrêmement sensible ne se fasse pas un bon militaire, ça paraît une évidence. Mais en même temps, pour lui, c'est une culpabilité permanente, car il ne faut pas oublier ses origines. Et il y a ce déchirement intime de la guerre d'Algérie, qu'on voit bien dans le film d'ailleurs, Bruno Grasson.
Oui, c'est raconté de façon très précise, et on le sent dans tout son être qu'il est très sensibilisé par ça. On le voit, et dans ses rapports à sa famille, évidemment.
Oui, comment veut se présenter face aux siens, en quelque sorte? Parce qu'il est resté fidèle de ce point de vue, d'ailleurs jusqu'au bout, hein, il faut le dire.
Oui, absolument.
Alors, on lui fait comprendre qu'il n'a plus sa place chez Dior, grande maison extrêmement comme il faut, si je puis dire, où on peut pas s'autoriser ce genre d'incartade. Et c'est Pierre Berger qui a l'idée de créer une maison séparée. Ça se passe comment, Yann Kerlo?
Pierre Berger qui a l'idée de créer cette maison, et il va tout mettre en œuvre, comme il le fera ultérieurement, temps, quand à la fois quand les choses iront magnifiquement dans les années 60, 70 et jusqu'à 80, et ensuite il continuera le développement de cette maison en faisant, comme vous le savez, une sorte de d'institution de la maison de la maison Saint-Laurent, qui n'est en fait comparable à aucune autre, parce que c'est ce qu'il faut dire aussi à ce moment-là, c'est que il y a eu deux personnes, deux individus qui ont complètement révolutionné la mode du XXe siècle. C'était Gabriel Chanel, bien sûr, et ensuite Yves Saint-Laurent. Et au milieu des deux, on pourrait dire
avec
Balenciaga.
Avec des tendances, on peut dire opposées quasiment.
Hein. Avec des tendances absolument opposées, on va mettre au milieu la grande statue de Balenciaga, qui était le maître de tous, puisque tout le monde disait qu'il était le seul à savoir à la fois couper, dessiner et bien sûr aussi créer.
Alors, il y a chez Yves Saint-Laurent cette dimension artisanale, on peut le dire. On le voit, c'est très bien fait, ça aussi dans le film, on le voit dessiner constamment, on le voit habiller des poupées, on le voit faire du chiffon, comme on dit, hein, c'est-à-dire dans les ateliers, placer lui-même les étoffes, etc. Il y a cette dimension très manuelle chez le personnage. Hein. Il n'est pas, par rapport à Monsieur Dior, par exemple, qui était, je pense, plus distant par rapport à ses créations, il met la main totalement à la pâte.
Mais si, il faut savoir aussi qu'ils le font presque tous. C'est-à-dire oui. qu'au moment du défilé de haute couture, qui est quand même le moment crucial pour chacun de ces couturiers, ils vont jusqu'à la dernière minute faire d'ultimes retouches. Ce qui montre d'ailleurs toute la beauté de cet art, qui est un art artisanal. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est aussi une des grandeurs de ce métier qu'est la haute couture.
Alors, dans un instant, nous allons revenir sur l'autre grande passion d'Yves Saint-Laurent. Une passion sur laquelle on glisse peut-être dans le film, mais parce qu'on ne peut pas tout traiter non plus, qui est cette passion du théâtre.
Le Club Europe 1. À l'occasion de la sortie du film Yves Saint-Laurent, un film Europe 1 retraçant la carrière du célèbre couturier qui sort aujourd'hui, film réalisé par Jalil Lesper avec entre autres Pierre Niney, Guillaume Gallienne et Charlotte Lebon, nous vous proposons un séjour pour deux personnes de deux jours, une nuit à Paris, dans un superbe hôtel, le Westin Paris Vendôme, en chambre de luxe, transport inclus. Alors si vous êtes membre du Club Europe 1, inscrivez-vous vite sur club.europe1.fr pour participer au tirage au sort et tenter de gagner ce séjour. Et petit rappel, hein, si vous n'êtes pas encore membre du club, nous vous invitons à le devenir dès maintenant. C'est gratuit. Bonne chance à tous.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Tout est allé si vite aujourd'hui, grâce à Dieu. Dois-je dire adieu? J'ai un petit bureau à la droite de Dior. Dois-je dire de Dieu? Plaise à Dieu ou peut-être à Dior, sûrement aux deux. La mode m'accueillera comme le nouveau Dieu, le nouveau Dior. La mode m'accueillera comme le nouveau Dieu, le nouveau Dior.
À droite de Dior, nous écoutions Alain Chamfort sur Europe 1. Nous parlons d'Yves Saint-Laurent cet après-midi dans Au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Yann Carlo, qui a travaillé plus de 15 ans dans le domaine du luxe et de la mode, notamment pour les groupes Yves Saint-Laurent et Gucci, et auteur notamment des Secrets de la mode aux éditions Perrin, et Bruno Crass, notre critique cinéma d'Europe 1.
Il ne faut pas oublier la dimension centrale d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger dans le showbiz, hein, dans ce milieu très artistique des années 60 et 70. Alors, Roland Petit, Claude Régis, Jean-Louis Barrault, Louise Buñuel, François Truffaut, Jean Marais, Zizi Jeanmaire, Arletty, Jeanne Moreau, Isabelle Gianni, bien sûr Catherine Deneuve, l'égérie d'entre toutes, et même Rudolf Nureyev. On peut dire que Yves Saint-Laurent a beaucoup travaillé pour la scène, hein, ce qu'on a tendance à oublier, et c'était même ce qu'il préférait faire. Hein, c'était sa grande motivation, Yann Carlo.
Il a travaillé pour la scène et moi j'y vois une dimension un petit peu différente peut-être de celle que vous avez évoquée. Il y a une sorte de deuxième dimension dans le théâtre qui n'est pas vraiment la représentation de la vie. Et de la même manière que Yves Saint-Laurent adora l'opéra et les grandes voix comme Callas, etc. que l'on a entendu et qu'on entend dans le film, eh bien il y a cette dimension de distance avec la vraie vie. Tout se passe derrière le rideau et derrière le rideau on peut tout se permettre. Et il va donc exceller dans ses costumes de scène qui seront sa grande passion, il le fera à maintes reprises, mais c'est aussi pour moi un aspect de la théâtralisation de sa propre vie.
Et oui, bien sûr. Alors voilà ce qu'il disait du théâtre, c'était en 1974 sur Europe 1, au micro de Claude Dufresne.
J'avais toujours rêvé de travailler pour le théâtre parce que dès mon plus jeune âge, j'ai toujours adoré le théâtre et je me souviens très bien de moi jouant et construisant des maquettes de théâtre et des personnages de théâtre que j'habillais moi-même. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans et je voulais uniquement me consacrer au théâtre. Et puis, grâce à Michel de Brunhoff, j'ai été présenté à Christian Dior et cette rencontre a fait que la mode a pris la part la plus importante de mes occupations.
C'est même le moins qu'on puisse dire. Alors, si l'on devait retenir Yann Kerlo de toutes les nombreuses innovations, car c'est un homme de l'innovation, d'Yves Saint-Laurent, quelques éléments, que faudrait-il retenir ?
Moi, je mettrais en premier lieu la transgression, c'est-à-dire le smoking, un vêtement masculin qui tout d'un coup devient un vêtement féminin. Et
comme dans les années 20, mais de façon beaucoup plus
forte, oui. de façon beaucoup plus sexuée, je dirais. Et il y a quelque chose d'important aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Yves Saint-Laurent qui a mis les femmes en pantalon. Et ça veut dire qu'il a modifié leur manière de se tenir, de bouger,
de vivre,
de sortir d'une voiture. Donc il leur a donné la liberté. On est dans les années 60 et dans cette décennie 60, il va y avoir bien sûr le smoking, mais aussi tout son emprunt à l'art qui est tout à fait essentiel. C'est-à-dire que pour la première fois, un couturier va réellement s'inspirer de la palette des gens qu'il aime. Ce sera Braque, ce sera Mondrian, ce sera Picasso bien évidemment, et ça va donner une palette éblouissante dans le domaine de la couture. Alors c'est quelque chose qui n'avait pas été fait à ce point-là parce qu'il ne s'agit pas de purement et simplement imiter un costume, mais il va créer des vestes Van Gogh aux iris, des choses qui sont absolument éblouissantes, qui demandent 400 ou 500 heures de travail. Donc on va avoir là, en plus de la saharienne qu'il faut citer, parce que la saharienne c'est un peu l'opposé, c'est un vêtement tout à fait sportif où là le vêtement est délacé sur le mannequin, c'est des photos qui vont faire le tour du monde. Et de cette manière, si vous voulez, on a l'impression que Yves Saint-Laurent, c'est un touche-à-tout de génie et il va apporter énormément à la femme et à sa liberté et son mode d'expression.
Et alors, cette libération s'accompagne en même temps de quelque chose de très spectaculaire, un jeu sur la couleur, hein, qui est très...
Alors, un jeu sur la couleur, et là aussi c'est intéressant, parce que c'est non seulement un emprunt à la palette picturale des grands peintres du XXe siècle, mais il faut savoir aussi que dans les années 66, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent découvrent la Villa Majorelle, découvrent Marrakech,
oui.
Ils vont s'enthousiasmer pour ce lieu, qu'ils vont complètement retransformer et l'acheter finalement en 1980, et là il y aura des appels de couleurs qui sont stridents. Par exemple, le fameux bleu majorelle, le rose indien, le rose fuchsia, qui vont changer complètement la donne, on pourrait dire, presque picturale d'Yves Saint-Laurent.
Il y a chez Saint-Laurent un intérêt, par ailleurs, pour une mode qui descend un peu des podiums et des grandes soirées, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une mode plus quotidienne, peut-être aussi.
Alors là aussi, on est exactement dans la même décennie, la décennie de 60 à 70. En 1966, la maison Yves Saint-Laurent Haute Couture décide de décliner sa couture en prêt-à-porter et on va avoir la fameuse marque Yves Saint-Laurent Rive Gauche qui va être lancée,
oui.
Et qui va permettre aux femmes qui n'ont pas les moyens de s'habiller en haute couture de pouvoir porter les vêtements de ce couturier qui est déjà devenu un mythe.
Vous parliez de la Villa Majorelle à Marrakech, il faudrait parler aussi de Deauville, enfin de cette atmosphère qu'il y avait autour de Berger et Saint-Laurent. On voit beaucoup dans le film de grands décors, d'ailleurs les décors sont particulièrement soignés. Hein,
oui, ils sont les décors d'Aline Bonetto, c'est une très très grande décoratrice qui travaillait sur Amélie Poulain entre autres.
Mm-hmm. Et donc on est vraiment dans une atmosphère, il y a des lumières, des matières absolument magnifiques. Il faudrait pas oublier que si Pierre Berger est un grand homme d'affaires, c'est aussi un grand collectionneur. Et Yves Saint-Laurent aussi, mais peut-être... Qui suivait l'autre dans l'affaire,
je sais pas. Mais... Je pense que c'est Yves Saint-Laurent qui a suivi Pierre Berger.
Ça.
Ils ont fréquenté ensemble les plus grands collectionneurs,
oui, bien sûr, oui.
Les plus grandes galeries, et on arrivera à cette fameuse collection qui sera mise en vente. Vous le savez, il y a relativement peu de temps par Christie's, dont la constitution du catalogue durera 24 mois, avec des trésors qui vont de Goya à Mondrian, en passant par Léger, Braque, quelques autres, un mobilier tout à fait exceptionnel, sans oublier une des plus grandes collections d'Anabe d'Augsbourg et de choses d'objets de la Renaissance.
Alors la maison de couture est installée à l'avenue Marceau. Quand les Parisiens connaissent bien, hein, quand on descend l'avenue Marceau, c'est vraiment vers le bas, sur la droite. Ça a toujours été à cet endroit ?
Alors, la première maison de couture était rue Spontini.
Ah oui.
Et ensuite, cette maison, le 5 avenue Marceau, est devenue, là aussi, on peut dire vraiment un lieu exemplaire, une façade que l'on connaît dans le monde entier, puisqu'elle a été sur tous les magazines avec les mannequins les plus célèbres portant les robes du couturier.
Il y a toujours ce côté célébrité, glamour. Glamour, c'est peut-être ça le terme finalement, pour résumer.
Il y a un côté glamour qui assez singulièrement, est un peu décalé par rapport à Yves Saint-Laurent, puisque lui-même n'aimait plutôt qu'être dans l'ombre, à part les années où il a goûté à la vie parisienne dans tous les sens du terme, et souvent au bord du scandale. Ça a été au début de sa carrière, ce que montre le film. Mais je pense que, si vous voulez, le côté glamour, il était aussi donné par les clientes de grand prestige qui fréquentaient la maison, et aussi par les amis personnels d'Yves Saint-Laurent qui appartenaient à cette jet set.
Vous parlez de scandale et de vie parisienne et de vie surtout nocturne. Évidemment, il y a deux grands aspects dans la vie d'Yves Saint-Laurent, que sont l'homosexualité et la drogue.
Alors, l'homosexualité et la drogue, mais je pense, si vous voulez, qu'il faut les voir aussi comme une sorte d'addiction, dans l'espoir de trouver encore plus de choses.
C'est pour ça que je l'ai dit d'une certaine manière.
Et plus de talent. Donc, il va avoir, bien entendu, des partenaires sulfureux et des aventures nocturnes. Mais je crois, si vous voulez, qu'il y avait derrière tout ça une recherche de toujours aller vers le mieux, vers l'exception. Alors, ce n'est pas nécessairement en courant les boîtes de nuit que ça se passe, mais peut-être c'est aussi une sorte de dopage, pourrait-on dire, du couturier lui-même.
Il faut dire que le Paris de la nuit des années 70, c'était quand même incroyable. C'était avant le sida, hein, tout ça.
Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui, en voyant le film, ont regretté qu'on ne voit pas assez ce Paris des années 70, la folie. Peut-être que dans le film de Bertrand Bonello, on le verra. Mais moi, ma question, c'est, dans le film, on voit Pierre Berger essayer de le protéger de ça et de le couper de ses amis qui l'entraînent vers ses abîmes. Est-ce que c'était le cas?
Ça a été tout à fait la réalité, puisque on le sait, puisqu'il y a eu un livre qui avait été fait sur ce sujet par une romancière britannique, Alicia Drake, et donc Yves Saint-Laurent a eu à un moment donné une liaison avec Jacques de Bachère, qui était l'ami et le partenaire de Karl Lagerfeld, qui était un homme que l'on pourrait appeler à haut risque, puisqu'il sortait énormément, et donc là je pense que Pierre Berger a sagement mis le holà à des aventures qui auraient pu entraîner encore beaucoup plus dangereusement Yves Saint-Laurent vers une pente qui risquait de lui être fatale.
Et dans le film, on voit constamment Pierre Berger, donc interprété par Guillaume Gallienne, essayer de réfréner, d'entourer, de protéger.
On voit le fameux Jacques de Bachère.
Oui, voilà. Et on le voit, bien sûr. Et là, dans Grazia, à Ariel Wiesman, qui lui demande si Saint-Laurent a véritablement failli le tuer, voilà ce que répond Pierre Berger. « Oh, rien d'inhabituel. Il était plein de drogue et d'alcool. Il m'a balancé une tête en marbre sur une impulsion comme ça. Il fallait le ménager. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Alors le lendemain, c'était oublié. Il y avait sans doute un travail entre ces deux personnages. Ça devait être très difficile.
Oui, ça, en revanche, c'est dans la dernière moitié du film qui est très émouvante. On le voit. Et d'ailleurs, je ne veux pas dévoiler la fin du film, mais il y a une très belle séquence où il est vraiment devenu, je me dis entre guillemets, presque une épave, et où il est obligé de se redresser. Alors ces images-là ont existé, défilant, mais au bout de ses forces, enfin venant saluer presque au bout de ses forces dans les derniers défilés.
C'est ce que l'on a vu dans les dernières collections, effectivement, où il était vacillant sur le podium.
Cette voix, je vous propose de l'écouter d'ailleurs, si vous voulez. C'était le 7 janvier 2002, au micro de Laurent Delpech.
Je choisis aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. C'est aussi à ces fantômes esthétiques que je dis adieu. Grâce à eux, j'ai réuni autour de moi une famille qui m'a tant aidé, protégé, aimé. Cette famille est la mienne, et on imagine que ce n'est pas sans déchirement que je la quitte, car je sais bien que les plus beaux paradis sont ceux qu'on a perdus.
Il y a quelque chose de proustien dans ces adieux d'Yves Saint-Laurent à la profession et quasiment au monde.
C'était très touchant et je crois surtout ce qu'il faut dire, c'est que, et ce que l'on pourrait retenir de lui de manière essentielle, c'est qu'à la fin de chaque défilé, on avait l'impression d'être un petit peu soulevé de terre par la beauté de ce que l'on avait vu. Et en même temps, on avait l'image finale qui était l'image d'un Saint-Laurent qui était de plus en plus fatigué et de moins en moins lui-même et de moins en moins apte à créer. Donc la décision très douloureuse sans doute de fermer la maison de couture en 2002 a été une décision intelligente.
Oui, ça devait être un déchirement pour le coup. C'est ce tiraillement entre la splendeur des étoffes brodées, de ces couleurs, ces symphonie de couleurs lors des défilés, et puis le personnage qui lui arrivait de plus en plus délabré, en vérité.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, si vous voulez, c'est que la grande habileté de Pierre Berger, c'était de faire que le mythe continue bien au-delà du créateur. Il va continuer encore pour une centaine d'années.
Cette émission en est la preuve. Merci infiniment, Yann Kerlo. Je rappelle notamment votre ouvrage chez Perrin, Les secrets de la mode, et ce n'est pas un vain titre. Merci beaucoup, Bruno Crass.
Avec plaisir.
De nous avoir fait, comme d'habitude, vibrer au 7e art.
Sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Stéphane sur l'origine de l'expression « autant pour moi ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Stéphane qui nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission, qui voudrait connaître l'origine de l'expression « autant pour moi ».
Et oui, et ça m'intéresse. Merci à Stéphane d'avoir posé la question, parce que on est exactement dans ces espèces de sujets à la mode, vous savez. Depuis quelques années, on nous explique que « autant pour moi », l'expression d'un point de vue tout à fait correct, vient d'un terme de cavalerie, qu'il s'agit lorsqu'un cavalier a perdu le pas, comme on disait, de faire appel aux autres et de dire autant pour moi, c'est-à-dire on revient au temps et on se remet au pas. Voilà d'où viendrait l'expression. Donc autant pour moi, ça s'écrit AU, plus loin TEMPS, pour moi. Bon, alors évidemment, c'est tellement amusant à dire, cette explication qui est sans doute, enfin qui est probablement vraie, c'est le altiempo italien, vous savez, c'est tellement original qu'on l'a beaucoup dit. Et alors maintenant, tout le monde fait très attention, et même dans les textos où tout le monde écrit n'importe comment, on écrit bien autant TEMPS pour moi. Mais nous disent un certain nombre de linguistes, c'est une espèce de mode, et en vérité, c'est pas si simple que ça. Et notamment Claude Duneton, qui, vous l'admettrez, est tout de même en fait de langage une véritable référence, nie complètement l'origine de cette expression. Et ça veut dire, plutôt, dit-il, je ne suis pas meilleur qu'un autre, j'ai autant d'erreurs que vous à mon service, autant pour moi. Et donc à ce moment-là, c'est autant AUTANT. Bref, eh bien, je n'arbitrerai pas entre les deux versions, mais je pense qu'on a autant le droit d'écrire autant AUTANT que AU plus loin TEMPS.